Nous vivons aujourd'hui une époque formidable. Nous vivons de plus en plus vieux, l'espérance de vie augmente de 2 à 3 mois tous les ans, nous sommes toujours en meilleure santé, l'âge de morbidité recule même plus vite que l'âge de mortalité. Nous travaillons moins, 35 heures pour beaucoup d'entre nous maintenant, le travail est de moins en moins pénible, nous avons plus de loisirs, les loisirs sont d'espèces tout à fait différentes, multitude de moyens d'accès à la culture, la preuve ce soir, de transport, de communication, etc. Alors bien sûr, la médaille a ses revers, on peut penser à la pollution, aux impacts environnementaux, aux nouveaux risques technologiques, c'est sûr que lorsqu'il n'y avait pas d'avion, on risquait pas de mourir dans une catastrophe d'avion. Peut-être peut-on craindre un accroissement des inégalités, mais je crois qu'il ne fait aucun doute que aujourd'hui, les sociétés modernes vivent mieux qu'il y avait 50 ou 100 ans. Et que cette amélioration est due, pour une très grande part, au progrès de la science et au progrès des techniques que la science a engendrées. Alors, ce nouveau paradigme de progrès social rapide, fondé sur le progrès scientifique, qui engendre à son tour le progrès technique, ce nouveau paradigme a ses exigences. Il faut alimenter la machine. Et pour alimenter la machine, il y a trois espèces de carburant. Le premier carburant, c'est le carburant que j'appellerais les créateurs de sciences. Ce sont les scientifiques, les chercheurs qui font avancer les connaissances de manière générale et qui, de temps en temps, inventent un nouveau concept, une nouvelle méthode qui est une étape significative. Le deuxième carburant, c'est toujours le carburant humain. Ce sont les utilisateurs de la science. Et les utilisateurs de la science, eh bien, ce sont en premier lieu les ingénieurs qui perfectionnent les technologies, qui en inventent de nouvelles, mais ce sont aussi les gestionnaires qui utilisent des méthodes scientifiques pour optimiser la production de biens et de services. Ce sont plus généralement les décideurs. Qui savent gérer la complexité, enfin, qui sont censés savoir gérer la complexité et l'incertitude, et qui utilisent des méthodes scientifiques de plus en plus sophistiquées, comme les statistiques et la modélisation. Et plus généralement, ce sont tous les travailleurs, quelle que soit leur profession, eh bien, qui doivent être capables, à qui l'on demande de plus en plus d'être capables d'analyser, de comprendre, de raisonner, de ne pas seulement répéter des gestes. La troisième combustible, c'est les citoyens éclairés. Parce que les progrès scientifiques nécessitent que la communauté des citoyens puisse, d'une part, contribuer au choix de la société, par exemple en matière d'énergie ou les OGM, enfin plus généralement, toutes sortes de progrès scientifiques et techniques, mais également, de plus en plus, le citoyen doit être capable de prendre des décisions personnelles. Est-ce que c'est dangereux ou pas d'utiliser mon téléphone portable? À propos, éteignez le vôtre. Est-ce que c'est dangereux ou pas d'envoyer mon enfant à l'école si l'instituteur est séropositif? Enfin, c'est ce genre de décisions qui, évidemment, ne se posaient pas auparavant. Alors, c'est de ces trois besoins, les besoins qui sont apparus à cause du rôle du progrès scientifique et technique, c'est de ces trois besoins que je découlerai les trois objectifs que je souhaiterais fixer à l'enseignement des sciences. Le premier, former des scientifiques, des chercheurs, des spécialistes des disciplines. Bon, c'est l'objectif de l'enseignement de toute discipline depuis des millénaires, disons depuis les écoles de Pythagore, d'Euclide, en passant par les universités médiévales, transmettre les connaissances à la génération d'après en y apportant des nouvelles. Mais aujourd'hui, l'importance du rôle de la science dans la société fait que cet objectif de former des scientifiques, mais pas seulement l'objectif d'une communauté de spécialistes qui souhaitent se renouveler, éventuellement s'étendre, progresser, mais c'est devenu un impératif que je qualifierais même de géopolitique pour chaque pays. Le deuxième objectif, c'est de former des utilisateurs de la science. Alors, c'est un souci un peu plus récent, et la science d'ailleurs a été tout à fait leader dans ce domaine, puisque c'est la France du XVIIIe siècle qui avait ressenti le besoin de créer, bien sûr, on n'appelait pas encore des écoles d'ingénieurs, mais enfin, c'était des institutions spécialisées pour former les cadres techniques dont elle avait besoin pour développer son potentiel géostratégique. Et c'est l'Ancien Régime qui a créé l'école des ponts et chaussées et l'école du génie, la Révolution qui a ajouté l'école polytechnique et l'école normale supérieure dans l'espace de quelques années. Et je voudrais vous lire une citation de Monge en 1798, justement à propos de la création de l'école normale supérieure. Et le vocabulaire date, mais le sens est d'une modernité étonnante, puisque Monge s'appuyait sur la nécessité de, ouvrez les guillemets, tirer la nation française de la dépendance où elle a été de l'industrie étrangère. Et pour cela, il préconisait de répandre la connaissance des machines qui ont pour objet ou de diminuer la main-d'œuvre ou de donner au résultat des travaux plus d'uniformité et plus de précision. Et ainsi, ajouta-t-il, les consommateurs devenus sensibles à l'exactitude pourront l'exiger dans les différents ouvrages et y mettre le prix nécessaire. Donc, il avait compris, avec le vocabulaire de son temps, encore une fois, mais avec 2 siècles d'avance, l'importance de la qualité pour la compétitivité industrielle, de la technique pour la productivité et la qualité, et bien sûr de la formation de spécialistes. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de former une petite élite d'ingénieurs, de gestionnaires, de décideurs, de managers, mais il s'agit de former tous les travailleurs dans toutes les branches d'activité qui ont de plus en plus besoin de sciences. Les agriculteurs aujourd'hui utilisent des outils informatiques pour gérer leur exploitation et de la chimie pour doser leurs engrais NPK. Troisième objectif que je fixerai à l'enseignement scientifique, former les citoyens à comprendre les enjeux de la science. Les enjeux, c'est-à-dire les enjeux positifs, ce qu'on peut en attendre de retombées positives, mais aussi les risques éventuels. Également, juger ce qu'on peut demander à des scientifiques. Alors, ça peut paraître paradoxal, on peut leur demander la Lune, les scientifiques qui ont envoyé l'homme dans la Lune, mais si on leur demande des certitudes, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, bien sûr, dans cette formation, il s'agit d'inculquer la culture générale scientifique de base, et aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'arithmétique qui représente le minimum de ce qu'il faut savoir, mais il faut savoir et surtout comprendre pour pouvoir décider soi-même et participer au choix collectif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et évidemment, comment le citoyen pourrait-il porter un jugement éclairé sur le nucléaire s'il ne sait pas ce qu'est la radioactivité ou s'il ignore qu'il existe une radioactivité naturelle? Alors, j'ai choisi aujourd'hui d'examiner l'enseignement des sciences, non pas en termes de connaissances, de niveau des connaissances, mais en fonction de ces trois objectifs. En fait, c'est bien évident que si l'on examine l'enseignement scientifique par le seul critère des connaissances transmises et acquises, eh bien, on conclut, comme mes anciens camarades de Baudelot et Establet, que le niveau monte. Et heureusement que le lycéen d'aujourd'hui sait des choses que son père ou son grand-père ignoraient. Alors, bien sûr, les spécialistes de telle ou telle discipline pourront toujours dire, et je sais qu'il y en a de nombreux dans cette salle ou qui m'écoutent à Montpellier, les spécialistes pourront toujours dire, il est scandaleux de donner le bac ou tel diplôme à quelqu'un qui ne sait pas ceci ou cela. Et d'ailleurs, les 10 spécialistes ne s'en font pas faute. J'ai connu un directeur des lycées et collèges qui aimait à raconter que, une fois qu'il a eu quitté ses responsabilités, il a reçu plusieurs centaines de visiteurs venant lui demander de rajouter quelque chose au programme, et pendant les 3 ou 4 ans même qu'a duré son mandat, il n'a jamais vu qui que ce soit venir lui demander d'en enlever. Alors, donc, ça n'est pas sur ce terrain que je veux me placer, il s'agit de discussions de spécialistes, que je laisse aux spécialistes, mais je voudrais examiner l'enseignement des sciences au regard de ses responsabilités sociales qui sont encore une fois devenues considérables de former des créateurs, des utilisateurs et des citoyens. Alors malheureusement, quand j'examine les résultats de l'enseignement des sciences actuellement, à la lumière de ces trois objectifs, au regard de ces trois objectifs, eh bien, je suis bien obligé de constater qu'ils ne sont pas bons. L'appréciation, bon, si je remettais ma casquette d'enseignant sur la tête, quoique je l'ai quittée malheureusement il y a déjà bien longtemps, serait insuffisant, doit mieux faire. Alors, si vous permettez, pour porter ce jugement sévère, j'inverserai un petit peu l'ordre de mon exposé. Je commencerai par l'objectif de culture générale scientifique. Alors, bien sûr, vous me direz, comment peut-on mesurer la culture générale scientifique ? Je crois qu'il y a deux choses à mesurer. C'est, alors bien sûr, il y a les connaissances, mais je pense qu'il y a aussi les jugements, les attitudes vis-à-vis de la science, les échelles de valeur, comment la science est-elle placée dans les échelles de valeur de l'individu. De même que dans la culture générale littéraire, bon, bien sûr, il est important de savoir si quelqu'un connaît Racine ou Corneille, mais je crois qu'il est important aussi de savoir son attitude vis-à-vis de Racine et Corneille. Et s'il a quitté le lycée en jurant ses grands dieux de ne plus jamais lire une ligne de Racine ou de Corneille maintenant qu'il n'y était plus obligé, je pense que c'est aussi un critère à tenir, à prendre en compte. Alors, les connaissances, elles, bon, sont jugées par peuvent être bien sûr jugées par les tests scolaires, mais je crois que les tests scolaires sont extrêmement liés au programme d'enseignement, à la façon d'enseigner, à la pédagogie. Et il est assez difficile de faire des comparaisons internationales. Surtout, je dirais que la France n'est parfois pas toujours très bien placée dans les comparaisons internationales. En 1996, l'OCDE avait lancé une grande étude comparative internationale sur l'enseignement scientifique dans plusieurs dizaines de pays. Je mentionnerai assez souvent cette étude dans mon exposé, parce que c'est la seule qui a été faite, au moins récemment. Et l'OCDE a effectué dans plusieurs pays un Science Achievement Score, un test de performance scientifique, à la fin du premier cycle du secondaire. Alors, la mesure, l'unité de mesure importe peu. Sachez seulement que la moyenne des pays est à 540, et la plupart des pays sont très regroupés autour de cette moyenne. Il y a quelques champions qui sont autour de 580 et qui sont le Japon, la Corée, la Tchécoslovaquie. Bon, vous suivez quand même. Et il y a quelques cancres autour de 500, la Belgique, le Portugal, la Grèce, le Danemark et, oui, la France. Bon, alors j'ai conclu que ce test n'était pas une bonne mesure. Et Donc, je crois que enfin, les tests au moins plus significatifs pour l'objectif qu'on recherche, c'est les tests de ce que les Américains appellent scientific literacy, pour lequel je n'ai malheureusement pas trouvé d'expression française. Peut-être quelqu'un m'en donnera avant que j'aie à fournir le manuscrit à Yves Michaud. Mais disons qu'ils mesurent les capacités scientifiques en général. Alors, un pays a entretient depuis plus de 20 ans, mesure depuis plus de 20 ans chaque année des indicateurs de scientific literacy. Ce pays, c'est les États-Unis, c'est la NSF, la National Science Foundation, qui mesure ces indicateurs tous les ans depuis 20 ans. Alors, évidemment, ça tient à la culture des États-Unis, qui est très marquée par les statistiques. Les petits Américains, le first grade, savent calculer leur batting average au baseball et la comparer à celle de Joe DiMaggio. Bien sûr, aussi, ces indicateurs valent ce que valent les indicateurs, c'est comme la cote de popularité des hommes politiques, on ne sait pas très bien ce que ça mesure, mais on compare quand même entre personnalités politiques et d'une année à l'autre, et comme tous ces indicateurs, ça a une valeur de comparaison. Alors, justement, en 1996, une des parties de l'étude de l'OCDE a été de mesurer ces indicateurs dans les 14 pays industrialisés, les mêmes indicateurs que la NSF, c'est-à-dire les États-Unis plus 13 pays industrialisés. Alors les résultats ne sont pas brillants. On trouve qu'une moyenne de 10% de la population a une bonne compréhension des méthodes et des concepts scientifiques, 20 à 30% une compréhension partielle, le reste une compréhension nulle ou voisine de zéro. Bon, les chiffres n'ont pas beaucoup changé. En 99, il y a une stabilité assez remarquable. Dans cette étude de 96, la France était dans la moyenne avec l'Italie et les États-Unis. Au-dessus, on trouvait le Royaume-Uni, le Danemark et la Hollande. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de relation avec les scores scolaires. Et en dessous, l'Allemagne, la Belgique, ça, constante. L'Espagne, le Canada et, bon dernier, stupéfiant, le Japon, qui était tout à fait en pointe dans les systèmes scolaires. Bon. Alors, cette enquête multinationale n'a pas été renouvelée, mais bon, les États-Unis, encore une fois, suivent cette enquête tous les ans. Et alors, je peux vous donner quelques indicateurs, parce que chacune enquête statistique s'est faite avec des questions. Et alors, les quelques indicateurs par lesquels ils mesurent cette compréhension, c'est fait très sérieusement chaque année sur un échantillon de 2000 personnes. L'échantillon significatif aux États-Unis, c'est 2000 personnes, comme c'est 1000 en France. Bon. Alors, ce qu'on trouve, c'est que 13% de la population, ça c'est les chiffres 99, 13% de la population sait ce que c'est qu'une molécule. Bon, ça veut dire que 87% ne savent pas. Plus stupéfiant, 16% sait ce que c'est qu'Internet. 70%, plus de 70% savent que la Terre tourne autour du Soleil et pas le contraire. Bon, ça veut dire qu'il y en a un peu plus de 20% qui pensent, enfin, pas trop vraiment. Mais, ça c'était la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que moins de 50% sait que c'est en un an que ça se passe. Bien. Bon, moins de 50% de la population sait que les hommes ne sont pas contemporains des dinosaures. Ça doit être à cause du film, ça. Bon, bref, enfin, il y en a une liste comme ça qui sont suivies, les mêmes questions qui sont posées tous les ans. Elles vont finir par se savoir, d'ailleurs. Mais en fait, toujours est-il qu'en l'an 2000, c'est assez consternant, et je pense que, bon, la France, enfin, ça serait intéressant de les poser en France. Bon. Alors, Les deuxièmes questions sont aussi mesurées par les indicateurs de la NSF, c'est l'attitude par rapport à la science, positive ou négative. Bon, alors c'est mesuré, je vous dirai comment, mais alors l'étude de 96 a fait de l'OCDE a fait la même chose, mesuré les indicateurs NSF dans différents pays, et les États-Unis se distinguent par une attitude beaucoup plus positive par rapport à la science que tous les autres. 65% d'opinions favorables, 35% de défavorables, enfin, c'est pas favorable, défavorable, mais enfin, d'opinions positives par rapport à l'opinion des réticences, des craintes, etc. Tous les autres pays, ou presque, se tiennent autour de la moyenne, qui est à 55-45, 55 favorables, 45 défavorables. Il y a trois pays un peu exceptionnels, le Portugal et la Grèce, qui sont à 50-50, et surprise, le Japon, où il y a une majorité d'opinions défavorables. Bon, peut-être une séquelle de la bombe atomique. Alors, bon, ces comparaisons valent ce qu'elles valent, mais enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que la vitalité actuelle de l'économie américaine n'est peut-être pas totalement indépendante de cette attitude vis-à-vis de la science et de la technologie. Alors, quelques questions. Détail de quelques questions. Alors, je vous chiffre les résultats du sondage NSF pour 2000. Exemple, les manipulations génétiques font plus de bien que de mal ou plus de mal que de bien. 44% plus de bien que de mal, 38% plus de mal que de bien. L'énergie nucléaire, 48% plus de bien que de mal, 37% plus de mal que de bien. Ça sera intéressant de poser les questions en France. Alors, ce qui est très curieux, et bon, ça vous surprendra peut-être pas, mais j'y reviendrai un petit peu. Enfin, c'est une différence qu'on retrouve assez souvent, et qui explique peut-être les différences de présence de filles parmi les scientifiques, c'est qu'il y a une très nette différence des attitudes vis-à-vis de la science selon le sexe. Manipulation de la génétique, les hommes 50% de favorables, 33% de défavorables, les femmes 38% de favorables, 42% de défavorables, majorité de défavorables. Énergie nucléaire, même chose, 59-34 pour les hommes, 39-40, quasi égalité, mais légèrement défavorable pour les femmes. Alors, si je regarde les résultats, bon, pour la scientifique literacy, c'est à mon avis franchement mauvais. Pour l'attitude face à la science, ben évidemment, il y a deux lectures possibles. Bon, on peut dire que, enfin, au moins pour ce qui est des États-Unis, que l'enseignement de la science a échoué à communiquer l'enthousiasme qui était celui de la fin du 19e siècle et qui bon, a sans doute perduré jusqu'aux Trente Glorieuses. Ça, c'est le point de vue pessimiste, mais il y a aussi une autre interprétation optimiste qui est que l'enseignement des sciences a formé des citoyens plus critiques, plus sceptiques, plus vigilants, et c'est peut-être bien aussi. Par contre, quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer et que je crois, enfin, pour laquelle je n'ai pas vu d'explication, c'est la différence suivant les sexes. Alors, je serai un petit peu plus rapide sur les objectifs 2 et 3, c'est-à-dire la formation de créateurs de sciences, enfin d'utilisateurs de sciences pour 2 et le créateur de sciences. Je les regrouperai parce que là, le constat est sans appel. Aujourd'hui, l'enseignement des sciences ne répond pas aux besoins de la société en matière de flux de production de scientifiques. Alors, évidemment, vous allez me citer le fait qu'il y a des docteurs et sciences sans emploi, et donc on en formerait trop. Mais en fait, non. Pour moi, le fait que des scientifiques à un tel niveau de formation que le doctorat soit sans emploi, indique qu'ils n'ont pas été formés d'une manière qui correspond aux besoins de l'industrie, de l'économie et du pays d'une manière générale. Le malheureux, c'est qu'eux ne sont pas responsables. Et le plus grave, c'est que alors que les besoins croissent, Eh bien, on forme de moins en moins de scientifiques parce que les jeunes se détournent des carrières scientifiques. Alors, dans certains pays européens, l'évolution est absolument dramatique. Depuis le début des années 90, dans des pays comme l'Allemagne ou la plupart des pays de l'Europe de l'Est, on assiste à une réduction de 50, voire 70% dans les filières scientifiques qui ont été absolument asséchées. En France, l'évolution est plus récente, elle est moins marquée, mais elle est peut-être tout aussi inquiétante parce que peut-être il ne faudrait pas que nous suivions avec quelques années de retard. Enfin, les chiffres, bon, vous les connaissez tous sans doute. Entre 95 et 99, c'est-à-dire sur 4 ans, alors que le nombre de bacheliers a cru de 2%, le nombre de bacheliers scientifiques a diminué de 8%. La proportion de Bac S, qui était de 28% en 95, est tombée à 25% en 99. Le flux d'entrée dans les universités diminue entre 95 et 99 à cause, bien sûr, pour des raisons démographiques. Mais le flux dans les DEUG scientifiques, lui, a chuté de 24%. Et le pourcentage d'entrée dans les filières scientifiques, qui était de 20% en 95, est maintenant 16% seulement en 99. Même la voie royale, pardonnez-moi, je demande pardon aux universitaires qui sont présents dans la salle, mais la voie royale à la française, que sont les classes préparatoires scientifiques, eh bien, les diminue de 12% sur les 4 ans, et ce n'est pas pour des raisons démographiques, puisque c'est en principe, c'est le dessus de la pile, donc le dessus de la pile existe toujours, il suffit de descendre un petit peu plus bas. La filière cotée, enfin, à tort ou à raison, la plus cotée, qui est la filière NP, chute, elle, de 18%. Alors déjà, on trouve des filières de spécialistes qui sont en train de se tarir. Moi, j'en citerai une que je connais bien à Supélec, qui est la formation d'ingénieurs en génie nucléaire. Alors évidemment, ça se comprend peut-être, puisque bon, les jeunes lisent toute la journée que le nucléaire, c'est fini. Le problème, c'est qu'on a des centrales nucléaires qu'il faut toujours faire tourner, et si on n'a personne pour les faire tourner, il y aura des problèmes extrêmement sérieux. Bon. Pour moi, il ne fait aucun doute que le plus grand défi de l'enseignement scientifique à l'aube du XXIe siècle, c'est d'attirer davantage de jeunes. Alors pourtant, l'intérêt pour les sciences dans la population est élevé, la preuve, vous êtes ici ce soir. Et même si ça peut paraître contradictoire avec un faible niveau de scientific literacy, les gens s'intéressent à la science. Alors, je reprends ma fameuse étude de l'OCDE en 1996. Dans la majorité des pays, 40 à 60% de la population déclare s'intéresser à la science et à la technologie. Et sur ces 40 à 60%, entre 10 et 20% déclarent un intérêt suivi. Alors, c'est vérifié, hein, l'enquêteur ne met pas indistinctement dans la case intérêt ou intérêt suivi. Les pays sont remarquablement groupés. Le Japon est encore une fois à la traîne, moins de 20% de personnes intéressées, moins de 2% d'intérêt suivi. Et la France, cocorico, est leader, 16% d'intérêt suivi, beaucoup plus que tous les autres pays. Les Français, ben, je pense que c'est un peu dans la culture de notre pays, le siècle des Lumières, etc. Le Français s'intéresse à la science. Alors, bien évidemment, dans les chiffres de l'OCDE qui ont été sexués, on retrouve la différence homme-femme. 47% des hommes s'intéressent, 42% des femmes. 16% des hommes ont un intérêt suivi, 7% seulement des femmes, moins de moitié main. Bon, on pourra peut-être discuter tout à l'heure des explications. Alors, là, encore une fois, si on passe au détail, comment cet intérêt se manifeste-t-il? Bon, quelques statistiques amusantes. L'Américain moyen passe 20 heures par semaine devant sa télé, 8 heures par semaine à regarder des informations, bien informé. Plus surprenant, 3 quarts d'heure par semaine à regarder une émission scientifique. Je ne sais pas combien c'est en France, je sais pas de... et même une heure pour la moyenne pour les abonnés au câble, qui doivent recevoir plus d'émissions scientifiques, et bien entendu les hommes plus que les filles. Un chiffre surprenant, je ne sais pas ce qu'il est en France, 22% des Américains lisent la nuit des étoiles, l'université de tous les savoirs, les musées scientifiques, le palais de la découverte, mais pas seulement, il y a des musées scientifiques dans la France profonde, à Aurillac, il y a un musée de la volcanologie, à Marcenas, il y a un musée de la foudre, pardon, aux Auvergnats qui sont dans la salle, pour cette dénomination de France profonde, mais enfin, c'est sûr que Marcenas, c'est pas un endroit où on s'attendrait à voir un musée scientifique. Bon. L'audimat de la cinquième, bon, autour de 4%, parfois 5, le succès d'émissions scientifiques comme Archimède sur Arte. Donc, avec un tel intérêt dans la population, la situation devrait être plus favorable. Alors, pourquoi les résultats ne sont-ils pas meilleurs sur le plan de l'enseignement scientifique? Bon. Bah, c'est d'autant plus étonnant qu'il y a une centaine d'années, le système marchait très correctement, et même pendant des années après, je pense que l'essor économique, industriel, scientifique, technique de la France, de la fin du 19e jusqu'à, disons, aux 30 Glorieuses, hein, doit beaucoup à l'école de Jules Ferry. L'école de Jules Ferry a su former des générations de travailleurs capables d'évoluer avec les progrès technologiques de l'époque, qui étaient peut-être moins rapides que maintenant, mais enfin, sur une vie, c'est quand même considérable. Et puis aussi, en même temps, de préparer et de sélectionner les meilleurs pour devenir les cadres scientifiques et techniques dont la société avait besoin. Alors, comment ça marchait? Alors, je ne peux pas vous résister au plaisir de vous lire l'article 1er de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement obligatoire, parce que c'est un texte tout à fait remarquable et instructif. D'abord, c'est écrit en bon français, c'était du temps où le législateur écrivait en français. Je le lis. Alors, quelquefois, ça date un petit peu. Hein, bon. L'enseignement, article 1er, l'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique, ça c'est un peu ringard, mais enfin, en numéro 1 surtout, la lecture et l'écriture, oui, la langue et les éléments de la littérature française, oui, la géographie, particulièrement celle de la France, l'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours, c'est le sentiment national, bon, ça aussi ça fait peut-être un petit peu ringard maintenant, quelques notions usuelles de droit et d'économie politique, tiens, ça, c'est quelque chose qui a disparu. Le point important, les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques, leur application à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers. Après, on continue, les éléments de dessin, du modelage et de la musique, la gymnastique, pardonnez-moi, pour les garçons, les exercices militaires, pour les filles, les travaux à l'aiguille. Bien. Bon, il faut dépoussiérer un petit peu, mais je crois que le législateur de l'époque avait très bien vu que l'importance était non seulement d'enseigner la science, mais également d'enseigner son utilisation. Utilisation professionnelle, les métiers, utilisation personnelle, la santé. L'hygiène, pardon. Alors, si j'analyse ce qui a fait l'efficacité de l'école de Jules Ferry, bien sûr, il y avait le contexte de l'époque, c'est évident, mais moi je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est la leçon de choses, une merveilleuse leçon de choses. Leçon de choses, pas de leçon de physique, de chimie, non, leçon de choses. C'est vrai que la multidisciplinarité était certainement plus facile et plus naturelle à l'époque. Mais, finalement, cette merveilleuse leçon de choses, qu'est-ce qu'elle montrait? Elle montrait que l'observation intelligente du monde qui nous entoure permettait de le comprendre, d'inférer, les phénomènes et que les phénomènes et les lois de la nature, lorsqu'ils étaient connus et compris, pouvaient être utilisés pour le progrès, améliorer le bien-être, etc. Autrement dit, encore une fois, l'école de Jules Ferry, et c'est ça particulièrement important, n'enseignait pas seulement la science comme une somme de connaissances, mais aussi la science comme un processus. Un processus de découverte, en montrant l'approche expérimentale de la science, d'ailleurs, elle montrait le métier de chercheur, en montrant l'utilisation des résultats de la science, elle montrait le métier d'ingénieur, et elle pouvait certainement susciter des vocations, et elle permettait aussi aux citoyens, aux futurs citoyens, de mieux comprendre et aux futurs travailleurs de mieux exercer leur métier. Ça, c'était le premier élément, la leçon de choses. Le deuxième élément, c'est vraiment de plus en plus ringard, j'en ai conscience, mais enfin, les ans en sont la cause. Je mettrais là-dedans l'iconographie républicaine. Les écoliers de l'époque connaissaient l'histoire, bon, peut-être caricaturée, mais de Louis Pasteur, de Pierre et Marie Curie, enfin, pas immédiatement du temps de Ferry, un petit peu plus tard pour Pierre et Marie Curie, Bernard Palissy qui brûlait ses meubles, Delambre et Méchain qui partait mesurer le méridien terrestre. Et ce qui est important, je crois, c'est qu'on leur montrait ainsi la dimension sociale et la dimension humaine de la science. On leur montrait qu'il est possible, comme Louis Pasteur, de faire de la science sa vie, sa carrière. On leur montrait l'aspect passionnel de la recherche et de la science. Bernard Palissy, qui brûlait ses meubles. On leur montrait la dimension politique de la science. Delambre et Méchain, mandatés par la Convention. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à l'école de Jules Ferry, mais je crois qu'on peut s'en inspirer aujourd'hui dans le contexte scientifique du XXIe siècle pour répondre aux défis des besoins de la société. J'ai d'ailleurs été très heureux de voir que dans sa conférence de presse du 20 juin, où il annonçait la rénovation de l'enseignement des sciences à l'école élémentaire, le ministre Jack Lang a fait référence à la leçon de choses comme l'un des souvenirs heureux, je cite, de l'école. Je vois qu'on est de la même, je suis de la même génération que lui. Et il avait aussi cité, bien sûr, l'initiative de la main à la pâte de Georges Charpak comme un effort très prometteur de modernisation de la leçon de choses. Alors, bien sûr, la situation est plus difficile, car la somme des connaissances à acquérir s'est considérablement accrue en plus de 100 ans. Et c'est ce qui a nécessité la disciplinarisation de l'enseignement, bien sûr inévitable, mais qui présente deux écueils que l'on n'a pas su toujours éviter, pardonnez-moi mes chers collègues si je heurte certains. Premier écueil du corporatisme disciplinaire, chaque discipline cherchant à gonfler ses programmes pour augmenter ses horaires, bien entendu, il s'agit des autres disciplines, pas de la nôtre, je parle pour chacun. Et deuxièmement, le manque d'interdisciplinarité, enfin plus exactement, on introduit des cloisons entre les disciplines, alors que de plus en plus de problèmes scientifiques et techniques nécessitent l'appel à plusieurs disciplines pour être résolus. Tout le monde sait que les progrès en génétique n'ont été décisifs que lorsque les mathématiciens et les informaticiens ont commencé à s'intéresser aux problèmes du génome. Les entreprises, d'ailleurs, l'ont bien compris. Qui ont une structuration orthogonale de leurs équipes de recherche et développement, une structuration verticale par discipline pour entretenir et développer les compétences, et une structuration horizontale par projet pour conjuguer les compétences, pour résoudre un problème ou mener à bien le projet. Je dirais peut-être que, au risque de recevoir des tomates, que l'enseignement, et d'ailleurs pas seulement l'enseignement scientifique, on est aujourd'hui un peu au stade de la doctrine économique du mercantilisme au XVIIe siècle, où on croyait que la seule raison de développer son industrie était de protéger son marché des industries extérieures et de l'accroître par des conquêtes territoriales. C'était la stratégie mercantiliste, c'était la stratégie de Colbert et de Louis XIV. Alors on sait aujourd'hui, bien sûr, que la bonne méthode est de multiplier les échanges entre les marchés nationaux. Bon, la plupart des industries françaises occupent aujourd'hui des parts du marché mondial qui sont bien plus importantes que les quelques pourcents de notre marché national, et ça aurait été absolument impossible sans la libéralisation des échanges. Bien, je pense de même que, par une analogie, la meilleure manière de faire acquérir la maîtrise de l'outil informatique à l'école, ce n'est pas de prélever des heures d'informatique au détriment des maths, de la physique ou de l'histoire et géo, mais c'est que l'enseignement des maths, de la physique et de l'histoire et géo utilise l'outil informatique. C'est une opinion que j'ai défendue en ces temps qui m'a valu quelques inimitiés indéfectibles. Ce constat étant fait, alors peut-être sévère, j'en arrive maintenant à ma dernière partie, que peut-on faire pour que l'enseignement scientifique réponde mieux à ces trois objectifs? Alors il n'y a pas de promesse miracle, ça se saurait, mais je voudrais proposer quelques directions, des pistes que je suis sûr vous aurez à cœur de critiquer dans quelques minutes. Le premier point, qui est fondamental à mes yeux, est de ne pas enseigner la science comme une somme de règles et d'énoncés à mémoriser, mais comme un moyen d'analyser, de comprendre, de découvrir, voire de réaliser. Plus précisément encore, il s'agit de ne plus enseigner la science uniquement comme une somme de connaissances, mais aussi comme un processus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ça passe bien sûr par une revalorisation de l'expérimentation, qui est prônée depuis longtemps par Pierre-Gilles de Gennes ou Georges-Charles Pack. Un sujet, je peux quelque temps pour raconter une anecdote, un enseignant de Supélec, qui est aussi examinateur au concours d'entrée, m'a raconté que lorsqu'il interroge un candidat à l'oral du concours d'entrée sur telle ou telle expérience, eh bien 9 fois sur 10, le jeune taupin est très fier et il sait, et il va au tableau et il s'empresse de remplir le tableau d'équations. Bon, ce n'est pas exactement l'expérience. Et le plus grave est que, bon, trop souvent, les étudiants doivent attendre parfois le stage de DEA pour découvrir ce qu'est le processus réel de la recherche scientifique. Alors on comprend que, malheureusement, nombreux, de plus en plus nombreux, trop nombreux aujourd'hui sont ceux qui n'attendent pas jusque-là. Alors cela étant, bien sûr, il y a quand même des choses à apprendre. Alors j'ai dit que je ne rentrerai pas dans les programmes. Donc, je n'y rentrerai pas, mais prétérition, je pense qu'il devrait peut-être être défini en privilégiant un savoir structuré par rapport à un savoir discret, isolé, une organisation des connaissances plutôt qu'une collection de connaissances, ça revient un petit peu à dire la même chose, et moins de sujets, en tout cas moins de sujets plus approfondis plutôt que plus de sujets traités superficiellement. Quitte d'ailleurs à développer la curiosité des élèves en les incitant à lire sur des sujets non traités en cours. C'est une lecture qui sera superficielle, bien sûr. Ils pourront éventuellement revenir poser des questions au professeur, mais après tout, n'est-ce pas ce qu'on fait en langue vivante? Parce que les versions et les analyses grammaticales, on les fait sur quelques pages dans l'année. Mais en fait, le but de la manip, c'est que l'élève puisse lire des milliers de pages dans l'année et plus tard. Mon second point porte sur l'utilisation de la science qu'on enseigne. Aujourd'hui, il faut reconnaître l'utilisation la plus perceptible par l'élève, quand ce n'est pas la seule d'ailleurs, de l'enseignement dans une discipline, eh bien, c'est de résoudre les problèmes d'examen dans cette discipline. Et encore, ces problèmes sont-ils posés sous une forme canonique, dont on ne s'écarte jamais trop, qui guide l'élève pas à pas, et qui garantit que chacun de ces pas peut être franchi par l'application d'une recette qu'il doit connaître s'il a suffisamment bachoté. Alors je surprends toujours les élèves de première année de Supélec lorsque je fais mon discours de rentrée, comme c'est jamais les mêmes élèves, je peux toujours faire les mêmes astuces. Il s'agit de taupins frais et moulus. Je leur dis, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir à résoudre des problèmes pour lesquels il n'y a ni existence ni unicité de la solution. J'attends. Bon, il y a toujours 9 sur 10 qui roupillent, mais il y en a quand même 10% qui écoutaient, et j'assiste à un mouvement divers dans l'assistance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce qu'on s'est fourré? Un truc où il y a des problèmes, où il n'y a pas de solution, ou s'il y en a, il y en a plusieurs. J'aurais jamais dû choisir Supélec. De fait, très vite, en effet, bon, je vais faire un petit peu, pardonnez-moi, de pub pour mon école, mais parce que je pense que c'est une bonne école. Mais une fois rentré, beaucoup d'autres écoles d'ingénieurs aussi sont excellentes, pas toutes. Une fois rentré, on leur demande de quoi? Qu'est-ce qu'on leur demande? On va leur demander de réaliser tel ou tel dispositif qui répondent à tel ou tel cahier des charges, c'est-à-dire ce qu'on va leur demander quand ils seront dans l'industrie, mais charge à eux de choisir les outils, les techniques qu'ils vont utiliser, ceux qui semblent le mieux adaptés, ceux qu'on leur a appris à l'école, ceux qu'ils vont chercher dans la littérature, sur le web, ou alors qu'ils ont imaginé, qu'ils adaptent. Bon, vous reconnaissez là, bien sûr, la pédagogie de projet, pardon, qui cherche à développer chez les élèves des qualités qu'ils ont certainement, pour beaucoup d'ailleurs, mais qu'auparavant, ils avaient, disons, peu d'occasion de valoriser. Je pense à leur créativité, leur imagination, leur capacité d'innover, de réaliser, voire de prendre des risques. Bon, tout le monde dit dans les examens, les concours, vaut mieux pas prendre de risques. Bon, après, quand on est ingénieur, il faut savoir prendre des risques. Alors, c'est des qualités dont on a besoin chez les ingénieurs, mais aussi chez tous les scientifiques. Et c'est des qualités, d'ailleurs, dont l'expression fait, disons, une très grande part de l'intérêt du métier. Alors, je suis bien conscient que c'est beaucoup plus facile à faire dans une école d'ingénieurs que, par exemple, dans un lycée. Mais enfin, je pense qu'il devrait être possible de montrer qu'il est possible d'utiliser les acquis d'une discipline dans une autre, à commencer par exemple, les mathématiques et l'informatique dans toutes les autres disciplines, et puis de donner des exemples, comme disait Jules Ferry, d'application aux arts industriels, à l'usage des outils des principaux métiers. Alors, j'ajouterais d'ailleurs qu'en ce qui concerne le contrôle des acquis, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que, bien sûr, on cite le contrôle des acquis pour expliquer ce genre de choses. Peut-être faudrait-il évaluer, je suis prudent à ce que je dis, je lis, parce que j'ai pesé tous mes mots, évaluer moins systématiquement ce qui est facile à mesurer et plus souvent ce qu'il est important d'acquérir. Mon troisième point sera de montrer la dimension sociale de la science. Alors, ça commence bien sûr par le travail en groupe, malheureusement qui est peut-être difficile à concilier avec le caractère individuel de l'élitisme républicain qui imprègne notre système éducatif. Difficile, mais pas impossible, puisque les choses sont en train de changer. Mais pour moi, il s'agit aussi et surtout de montrer la science comme la merveilleuse aventure humaine qu'elle est. À travers les dangers qu'elle a traversés, les risques qu'elle a courus, ses réussites, ses échecs, ses perspectives. Et cela à travers son histoire, celle des grandes révolutions scientifiques, des hommes qui les ont menées, Copernic, Newton, l'atome d'Aristote à Niels Bohr, la biologie de l'évolution de Darwin à la biologie moléculaire. Aux mutations génétiques, la tectonique des plaques, etc. Et là encore, je pense que la curiosité des élèves devrait être cultivée, mise à profit, et cultiver. L'important, je crois, étant de faire comprendre deux choses. La première, c'est que le progrès des connaissances est inéluctable, il s'éteindra avec l'humanité, mais que c'est un processus qui n'est pas régulier, qui peut être long, conflictuel, douloureux, mais qui peut aussi connaître des fulgurances extraordinaires aux retombées considérables et que ce processus ne se commande pas. Et mon quatrième et avant-dernier point, parce que j'en aurai un cinquième, sera pour la dimension personnelle de la science. La science comme domaine d'épanouissement, de satisfaction, j'oserais dire de jouissance personnelle, la science comme terrain d'imagination, d'invention, d'expérimentation, oserais-je dire de jeu, d'aventure, la science comme domaine vierge à explorer, ouvert à toutes les curiosités, bref, la science passion. Alors il va sans dire que cet aspect de la science est malheureusement celui qui est le plus éloigné pour le potache moyen. Mais pourtant, encore une fois, la situation n'est pas désespérée et je regarde le succès des concours comme les jeux mathématiques, des olympiades de chimie, les opérations comme Matangine. Tout cela montre qu'il est possible de mettre en valeur ce que la pratique scientifique peut avoir d'hédoniste, osons le mot. Mais la science, c'est peut-être un jeu, mais c'est aussi une école de morale et d'éthique, où l'on apprend l'ouverture aux idées des autres, la tolérance, mais aussi où on développe son scepticisme et son sens critique. On écoute, mais on n'est pas forcé d'accepter. C'est aussi une école où on apprend l'humilité devant les faits, la gestion des incertitudes qui sont inévitables, parce qu'on recule le domaine de l'incertitude, mais les limaces sont toujours là. Et c'est en ce sens, je crois, que l'enseignement, on peut dire que l'enseignement scientifique devrait contribuer aussi à l'instruction civique et morale, ajouterait Jules Ferry. Alors, bien entendu, pour chacun de ces points, l'enseignement scientifique ne saurait se cantonner à l'intérieur de l'école. Je sais que je prêche des convertis, et encore moins aujourd'hui avec l'explosion des médias, bon, la presse scientifique, la télé, Internet. Il y aurait certainement beaucoup de choses à dire sur les médias et la science, peut-être de quoi faire une séance de l'Université de tous les savoirs. Je me tourne vers Yves Michaud, je ne sais pas si c'est prévu ou si ça a déjà été fait. Il y aurait en tout cas beaucoup à dire. Pour moi, j'en dirais juste un mot. Je crois que beaucoup de choses, finalement, devraient rapprocher le journaliste et le scientifique. Leur mission est tous les deux la quête de la vérité, enfin d'une vérité. Ils sont animés par la curiosité, mais aussi l'esprit critique. Ils ont tous les deux une grande humilité devant les faits. Ils obéissent à une éthique très exigeante. Bon, la différence, évidemment, c'est que le journaliste a un rédacteur en chef et que le rédac-chef a un peu tendance à favoriser les articles qui favorisent le sensationnalisme, voire le catastrophisme, d'où les défauts, certains défauts que l'on constate par la couverture de faits scientifiques par les médias. Mais, comme dirait Kipling, ceci est une autre histoire. Avant de conclure, je voudrais lancer ma cinquième et dernière proposition. Je crois qu'il faudrait mettre en place en France, pour compléter les indicateurs scolaires qui ont été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, eh bien des indicateurs analogues à ceux de la NSF aux États-Unis. Alors, je pense qu'il faut que ce soit les mêmes ou pas, mais je pense qu'on aurait ainsi un outil pour mesurer si l'enseignement des sciences progresse vers une réponse de plus en plus complète à ces trois objectifs sociaux. Alors, comme beaucoup d'activités humaines, je crois que la science marie la raison et la passion, ou comme l'a dit Poincaré, la logique et l'intuition. Mais ce qui rend la science particulièrement difficile est que les deux lui sont indispensables. Là encore, je citerai Poincaré, qui écrivait: la logique est l'instrument de la démonstration qui peut seule donner la certitude, mais l'intuition est l'instrument de l'invention. Alors peut-être le problème de l'enseignement des sciences aujourd'hui est-il tout simplement que on y met peut-être trop de raison, trop de logique, trop de certitude, et pas assez d'incertitude, d'intuition et de passion. Je vous remercie de votre attention.